Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président Jokowi inaugure les installations de santé maternelle et infantile à RSHS. Le président Widodo espère des discussions pacifiques avec le pape François. Le vice-président Maruf Amin a demandé que le développement de la recherche et de l'innovation en Indonésie continue d'être optimisé. Deuxième IAF à Bali, construire un avenir commun grâce à une action réelle et une collaboration. Le deuxième Forum Indonésie-Afrique cible une cooptation de 57 billions de roupias. Le vice-ministre de la Santé surveille l'état de préparation au dépistage de la Mpox à l'aéroport Ngurah Rai avant le deuxième IAF. Voici le journal complet. Le président Jokowi a inauguré les installations de santé maternelle et infantile à l'hôpital Hasan Sadikin, RSHS, Bandung, Jawa West, jeudi 29 août. Dans son discours, le président Jokowi Dodo a déclaré que les couples qui souhaitent suivre un programme de FIV n'ont pas besoin d'aller à l'étranger. Selon lui, les installations de RSHS Bandung ne sont actuellement pas inférieures à celles d'autres pays.
Jadi yang ingin bayi tabung, yang anaknya sakit, gak usah lah kita bawa.
Ceux qui veulent des bébés éprouvés, dont les enfants sont malades, nous n'avons pas besoin de les emmener à Singapour et en Malaisie, juste à l'hôpital Hasan Sadikin. L'esprit doit être comme ça, l'esprit doit être l'esprit de compétition avec les autres pays. Le président Joko Widodo a déclaré que le nouveau bâtiment était équipé de 490 lits et de diverses installations médicales modernes pour les services maternels et infantiles avec un budget de 383 milliards de roupias. Il avoue que la somme du budget ne le dérange pas pour autant que les résultats soient de qualité. Le président espère qu'avec des installations complètes, l'hôpital Hasan Sadikin de Bandung pourra devenir un exemple d'hôpital numérique moderne qui adhère à de bonnes normes de qualité et de gestion. Le président Joko Widodo a exprimé son espoir de pouvoir discuter des questions mondiales, y compris la paix avec le pape François qui entreprendra un voyage apostolique et une visite d'État en Indonésie en septembre 2024. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo dans la région de Tasikmalaya à l'ouest de Jawa jeudi. Dans sa déclaration, le président Joko Widodo a déclaré que l'ordre du jour principal de la rencontre avec le pape François serait de discuter des efforts visant à résoudre les conflits mondiaux, notamment les situations à Gaza et en Ukraine, ainsi que d'autres conflits mineurs. Le président a également déclaré son intention d'accompagner le pape François lors de sa visite à la mosquée Istiqlal, ou à Gelora Bung Karno, Jakarta. Le vice-président Maruf Amin a demandé que les établissements d'enseignement en Indonésie soient optimisés pour soutenir le développement de la recherche et l'innovation. Il l'a transmis dans son discours lors de l'inauguration du bâtiment du campus de l'Académie indonésienne de télévision, l'Institut des médias numériques MTEC, ATVIIMDE, à Jakarta, jeudi 29 août, cité par Antara. Le vice-président a demandé d'optimiser le bâtiment en tant que centre de développement de la recherche et de l'innovation, en particulier dans l'industrie des médias et de la radiodiffusion. Selon lui, le développement de la science et de la recherche dans le domaine de l'audiovisuel et du journalisme doit être encouragé afin que les connaissances continuent à se développer et ne se concentrent pas uniquement sur les sciences appliquées. Le vice-président a également appelé à maintenir la culture et l'éthique de la nation face au développement de l'industrie de médias. Le vice-président nous a également rappelé de continuer à accroître la coopération et la collaboration tant avec les campus nationaux qu'à l'étranger afin d'élargir les réseaux et d'enrichir notre vision du marché mondial. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Pahala Nugraha Mansuri, a déclaré que le deuxième forum Indonésie-Afrique, IAF, qui se tiendra à Nusa Dua, Bali, du 1er au 3 septembre 2024, n'est pas seulement lié aux idées, mais aussi aux actions concrètes qui produisent des résultats. Pahala Nugraha à Jakarta, jeudi 29 août, comme rapporté par Info Publique, a déclaré que pour le secteur privé et les entreprises publiques, BUMN, il est estimé qu'il y aura un accord d'une valeur allant jusqu'à 3,5 milliards de dollars américains, soit environ 50 billions de roupies. Il espère que ce forum discutera non seulement des plans visant à construire une coopération entre l'Indonésie et l'Afrique, mais produira également des plans concrets tenant compte du grand potentiel qui peut être développé entre les deux. C'est ce qu'a affirmé également le premier ambassadeur de Rwanda en Indonésie, Abdul Karim Harerimana. Il a déclaré que le deuxième forum Indonésie-Afrique fonctionnera également comme un forum d'échange d'idées pour surmonter les défis du développement. Le président rwandais, Paul Kagame, sera une personne ressource et partagera les expériences des pays africains, notamment de Rwanda, dans le renforcement de la coopération internationale au développement. Le gouvernement indonésien cible une coopération totale d'une valeur de 3,5 milliards de dollars américains, soit environ 57 billions de roupies, lors du deuxième forum Indonésie-Afrique IAF qui se tiendra à Bali du dimanche 1er septembre au mardi 3 septembre 2024. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pahala Nugraha Mansuri, dans une conversation avec Pro3RRI, jeudi 29 août, a déclaré que le deuxième AIF se concentrerait sur quatre secteurs, à savoir l'énergie, l'alimentation, la santé et les mines. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pahala, a confirmé que sur 57 billions de roupies, un accord d'une valeur de 2,7 dollars américains, soit l'équivalent de 40 millions de roupies, était prêt à être signé. Il a ajouté qu'il existe encore de nombreuses opportunités pour réaliser le développement de cette collaboration. Le deuxième forum Indonésie-Afrique, IAF, a soulevé le thème « L'esprit de Bandung pour l'agenda africain 2063 » afin de renforcer les relations entre l'Indonésie et les pays africains. Le vice-ministre indonésien de la Santé, Dante Saxono Harbuono, a confirmé l'état de préparation du dépistage de la variole du singe Mpox dans la zone des arrivées internationales de l'aéroport Igusti Ngurah Rai de Bali, mercredi 28 août. Ce contrôle a été effectué dans le cadre des préparatifs de la tenue du Forum Indonésie-Afrique, IAF, du 1er au 3 septembre. Dante a déclaré que le dépistage de Mpox est très important pour garantir que toutes les activités à Bali peuvent se dérouler correctement et que l'épidémie de Mpox ne se propage pas. Il a expliqué que le flux de dépistage Mpox s'effectuait à partir de la route arrivée internationale. Tous les passagers passeront d'abord par un scanner thermique. Si une température corporelle supérieure à 37,5 degrés Celsius est détectée, un réexamen sera effectué à l'aide d'un pistolet thermique. Si la température corporelle reste élevée, le passager sera dirigé vers la salle d'examen pour prélever un échantillon sur écouvillon. Si les résultats de l'examen sont positifs pour MPOX, le passager sera immédiatement référé à l'hôpital. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Communauté internationale condamne le projet de construction d'une synagogue dans le complexe Al-Aqsa » avec Maudry. Ce jeudi, des critiques sont venues de diverses parties du monde à la suite du projet du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir de construire un lieu de culte juif, une synagogue au sein du complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem orientale. Ben-Gvir a déclaré lundi 26 août que les Juifs ont le droit de prière à la mosquée Al-Aqsa et a l'intention de construire une synagogue à l'intérieur des lieux saints musulmans d'Al-Aqsa. Cette déclaration a suscité une condamnation internationale car on craignait qu'elle ne déclenche un conflit religieux encore plus grave. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, dans une déclaration officielle sur le compte X, a souligné que l'Indonésie condamnait fermement la déclaration du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, concernant le projet de construction d'une synagogue au sein du complexe de la mosquée Al-Aqsa. L'Indonésie a souligné que le statut du complexe Al-Aqsa doit être respecté conformément aux accords internationaux. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que le régime israélien menait des plans maléfiques liés à Al-Aqsa. Kanani a également souligné qu'actuellement les musulmans et les personnes qui veulent la liberté dans le monde entier ont une seule voix pour soutenir la Palestine et la mosquée Al-Aqsa contre les plans maléfiques d'Israël. Parallèlement, le royaume de Jordanie a exhorté le Conseil de sécurité des Nations Unies à agir immédiatement afin qu'Israël cesse de violer le statut des lieux saints de Jérusalem orientale, y compris la mosquée Al-Aqsa. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que les projets d'Israël visant à modifier le statut d'Al-Aqsa étaient motivés par une idéologie de haine et a exhorté la communauté internationale à agir immédiatement. Les critiques sont également venues de pays à population minoritaire musulmane. Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a critiqué mercredi dernier, 28 août, la déclaration d'Itamar Ben-Gvir. Il a souligné que la Norvège s'oppose fermement à la déclaration de Ben-Gvir selon laquelle il souhaite construire une synagogue sur le Haram à Sharif, mont du Temple. Par ailleurs, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a également déclaré que la déclaration de Ben-Gvir était très contre-productive et risquait d'aggraver une situation déjà très tendue. La mosquée Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam et sert de symbole de l'identité palestinienne. Le projet de construction d'un synagogue dans le complexe d'Al-Aqsa aggravera clairement la situation du conflit palestino-israélien. Espérons que toutes les parties puissent faire preuve de retenue, car des déclarations contre-productives comme celle d'Itamar Ben-Gvir ne feront que créer de nouveaux problèmes. Cela ralentit le processus de paix et prolonge les souffrances du peuple palestinien, en particulier de ceux qui vivent à Gaza. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je commence avec les événements du 30 août 1999, le référendum au Timor-Oriental. Depuis 1976, la région de Timor-Oriental est devenue la 27e province d'Indonésie, après avoir été colonisée par les Portugais au début du XVIe siècle. Après la démission du deuxième président indonésien Suharto en 1998, la pression exercée par les citoyens du Timor-Oriental pour exiger l'indépendance de l'Indonésie s'est accrue. Les Nations Unies ont ensuite adopté une résolution encourageant l'Indonésie à organiser un référendum dans le cadre d'un mandat de l'ONU après la consultation avec le Portugal. Finalement, le 30 août 1999, la population du Timor-Oriental a organisé un référendum sous le contrôle de l'ONU pour déterminer si le Timor-Oriental resterait avec l'Indonésie en tant que région autonome spéciale ou deviendrait indépendant. En conséquence, 78,5% de la population du Timor-Oriental a voté pour l'indépendance. Passons maintenant à l'événement chaque 30 août, la Journée internationale contre les disparitions forcées. Depuis 2011, le 30 août est fixé comme la Journée internationale contre les disparitions forcées par l'ONU. Elle a été créée pour rappeler à la communauté mondiale que des crimes de disparition forcée de personnes ont lieu dans divers pays. Cette journée vise à attirer l'attention de la communauté mondiale pour qu'elle continue à s'interroger sur le sort des personnes victimes de disparitions forcées. Selon le site internet du Bureau des Nations Unies en Indonésie, des centaines de milliers de personnes ont disparu lors de conflits ou d'oppressions dans au moins 80 pays à travers le monde. Le 30 août 2002, le décès de Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev était un homme politique russe devenu le 8e et dernier chef d'État de l'Union soviétique. Il a servi de 1985 jusqu'à 1991, période pendant laquelle il a été simultanément secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique et président de l'Union soviétique. Il est connu pour sa politique de glasnost ou l'ouverture qui a ouvert la liberté et de la presse et de la perestroïka ou restructurisation qui a décentralisé la politique économique. Il est également connu pour son rôle dans la fin de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, pour lequel il a reçu le prix Nobel de la paix. Gorbatchev est décédé le 30 août 2002 à Moscou, en Russie, à l'âge de 91 ans, des suites d'une maladie. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie. Chers amis lointains, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, dont le titre est « L'accord commercial doit être finalisé avant la transition gouvernementale ». La diplomatie des accords commerciaux doit être achevée avant la transition du gouvernement vers le président élu Prabowo Subianto en octobre 2024. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, lors de l'ouverture du dialogue spécial sur le compte du commerce à Jakarta, jeudi 29 août. Zulkifli Hasan expliquait qu'actuellement, la balance commerciale de l'Indonésie continue d'être excédentaire pendant 51 mois consécutifs. Cela doit continuer à être renforcé en supprimant les barrières commerciales par le biais d'accords diplomatiques. Selon Zulkifli Hasan, pour atteindre l'objectif de croissance économique de 7 à 8%, il faut mener une diplomatie étrangère. Actuellement, le gouvernement indonésien achève les négociations sur l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne, ou CEPAIUE, qui devrait s'achever en septembre prochain. En outre, Zulkifli Hasan a également déclaré que le gouvernement avait une nouvelle stratégie d'expansion en dehors des États-Unis et de l'Europe. Ces marchés non traditionnels comprennent l'Asie centrale, l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. En outre, Zulkifli Hassan a déclaré que notre stratégie pour accroître la croissance économique consiste à contrôler le flux des marchandises importées et à renforcer la productivité nationale. Contrôler le flux de marchandises importées en Indonésie peut garantir que les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, ne soient pas érodées. Selon Zulkifli, les marchandises importées de l'étranger doivent également être tenues de respecter les normes SNI, les permis de l'agence de surveillance des aliments et des drogues, BPOM, et même des certificats halal. Tout cela doit être réglementé et contrôlé. De cette manière, l'économie de l'Indonésie va croître. C'est le retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Et cette fois, je vais vous présenter Boisson Ans de la ville de Malang, Java Oriental, avec Maudry. Sachez tard, la ville de Malang, à l'est de Java, se trouve dans les hautes terres. La température de l'air est donc assez froide. Pour se protéger des températures froides de la ville de Malang, la population locale profite généralement d'une boisson chaude appelée Angsle ou Wedang Angsle. L'Angsle est une boisson qui associe de la sauce de divers autres ingrédients sucrés. La sauce est composée d'un mélange de lait de coco, de feuilles de pandan et de vanille. La garniture se compose de petulo ou putumayang, de haricots verts, de riz blanc gluant, de perles, de morceaux de pain et de tranches de fruits. Le pétulo est fabriqué à partir de farine de riz, de tapioc ou de sagou. Sa texture est donc douce. Sajoutard, l'attrait de cette boisson traditionnelle réside dans le fait qu'il ne fait pas partie des ingrédients de la préparation de l'ansle, car on pense qu'il en modifie le goût, même si l'utilisation de gingembre dans diverses boissons traditionnelles est largement connue. Cependant, comme le nom est souvent appelé wedang, une boisson généralement préparée à partir d'eau bouillie avec du gingembre, de la citronnelle et du sucre javanais. Certaines personnes utilisent encore même un peu le gingembre. Ce qui est important, c'est que le goût sucré de la sauce au lait de coco et l'arôme du pandan reste dominant. Chargeteur Wedang Angsle a un goût sucré avec l'arôme distinctif de feuilles de pandan. Habituellement, cette boisson est servie chaude pour conjurer l'air froid de la ville de Malang. Même s'il est originaire de la ville de Malang, l'Angsle se trouve également souvent à Surabaya, Lumajang et dans diverses régions de Java. Habituellement, cette boisson est vendue l'après-midi dans des charrettes ou des tentes. Le prix est relativement bon marché, environ 10 000 roupies par portion. Bonjour Joïta, c'est tout, le magazine culturel.
Jadi kaki ku tak ingin kau kecewa. berantakan lagi. Traffic jam ngajak ribut malam ini. Jam 8 masih aja begini. Apalagi ku berangkat jam 5 sore tadi. Klap klip lampu merah, kedap-kedip bikin resah. Si doi pasti bakal marah-marah. Mulut komat kami doa penuh pasrah. Semoga bukan tanda akhir kisah.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini.
Yang katakan ini benar nyata.
Sejurita, saya telah Samsung Pop Indonesia. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la week suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur. Et cette fois, je vais vous présenter Snack Bar aux feuilles de Moringa par les étudiants de l'UGM avec Maudrey. Sur l'accélération de la réduction du retard de croissance est l'un des programmes prioritaires nationaux. En fait, ce programme de retard de croissance ne se produit pas seulement en Indonésie, mais également dans divers pays. Selon l'UNICEF, le retard de croissance est causé par la malnutrition des enfants dans les deux ans suivant leur âge, par le manque de nutrition des mères pendant la grossesse et par un mauvais assainissement. Pour aider le programme gouvernemental à accélérer la réduction du retard de croissance, 5 étudiants de l'UGM, membres du programme de créativité étudiante et de services communautaires PKM-PM, ont créé une barre de collation innovante à base de feuilles de moringa. Chargeur, ce snack bar est fabriqué à partir de feuilles de moringa et ajoute également des noix comme les damame et les cacahuètes qui sont utilisées comme ingrédients de base. L'idée de fabriquer un snack bar à base de feuilles de moringa est venue des activités de service étudiant du village de Wonodri, Semarang, Java Central, dans ce sous-district. Les feuilles de moringa sont une denrée abondante, mais que la communauté locale ne peut pas transformer. L'équipe étudiante de l'UGM a ensuite présenté une innovation consistant à fabriquer des barres de collation à base de moringa comme ingrédient de base afin que la communauté puisse utiliser au maximum le potentiel des ressources dont elle dispose pour résoudre le problème du retard de croissance, surtout pour les femmes enceintes. Les feuilles de moringa peuvent prévenir le retard de croissance chez les bébés car elles sont riches en nutriments importants tels que la vitamine A, la vitamine C, le calcium, les protéines et le fer. Chargeur, l'équipe étudiante a réalisé des préparations culinaires sous forme de brownies et de snack bar secs. Les ingrédients nécessaires comprennent la farine de blé, le miel comme édulcorant, les feuilles de moringa, les cacahuètes et les edamame comme source nutritionnelle supplémentaire. Et pour donner une texture croustillante aux aliments. Les cacahuètes et les edamame contiennent de l'acide folique et du fer qui favorise le renforcement du fœtus afin qu'il puisse prévenir le retard de croissance chez les bébés nés. Mon cher Jouetard, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
I'm flying without wings and walking with a what you have been through. You feel so lonely, but you still be fine. Time will tell what you need.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Kamu tak akan pernah membuat diriku kecewa. Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson pop régionale de Maluku intitulée « Ayo Mama ». Chers auditeurs, la chanson « Ayo Mama » chantée par un tempo allegro. Il contient une conversation entre une mère et son enfant adulte. On raconte qu'un enfant a persuadé sa mère de ne pas se mettre en colère lorsqu'elle a été approchée par un jeune homme proche d'elle. Le ton joyeux et optimiste fait de la chanson « Ayo Mama » pas seulement familier aux habitants de Moluques, mais également populaire parmi les Indonésiens. Bon, chers auditeurs, voici la chanson pop régionale de Maluku intitulée « Ayo Mama » chantée par Deredia. Bon écoute.
Ayo mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ayo mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tertawa manis sekali. Ay mama, mama jangan marah beta, dia cuma cium beta. Ay mama, mama jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Lembe-lembe, makan ketupat.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.